en effet au Fils de Dieu l'être pur et simple, puisqu'il est de toute éternité, mais elle lui donne d'être homme. Sed solum quod sit homo, et non pas quod sit simpliciter. Alors, laisser, c'est quod sit simpliciter. C'est bon? Elle lui donne d'être homme. Au contraire, la nature divine constitue formellement la personne divine. Et c'est pourquoi on ne dit pas que la nature, on ne dit pas que la personne divine assume la nature divine, mais seulement la nature humaine. Vous voyez ? Quelle est la place des rapports entre nature humaine du Christ et le Verbe, et nature divine. Le lien entre nature divine et personne, c'est ici le Verbe, est autre que le lien entre Verbe et personne humaine. Le Verbe et la nature humaine. Le lien est différent. C'est ça que saint Thomas montre. Je peux dire que la nature divine constitue le Verbe. C'est sûr, c'est une personne divine qui a la même nature que le Père. Constitue, c'est-à-dire, est formellement présent dans le Verbe. Tandis que quand il s'agit de la nature humaine est assumée. Elle est, au point de départ, extrinsèque, si j'ose dire. Alors elle est assumée, elle est introduite à l'intérieur du mystère du Verbe, de la personne divine. Et alors c'est en ce sens-là qu'elle est assumée et elle ne constitue pas, puisque l'objection était là-dessus. Voyons tout de suite l'article 8, parce que ça vous intéresse d'une façon particulière. On est tout de suite au terme de la question. De temps en temps, il faut faire ça dans saint Thomas. Hein. Pas toujours, hein. Mais de temps en temps, il faut faire ça. En un, et puis, on voit tout le reste, c'est le fourre-tout. Hein. Convenait-il mieux au Fils de Dieu de s'incarner qu'au Père et au Saint-Esprit? Ça, c'est tout à fait pour la contemplation de Noël. Hein. Alors, c'est bien de le voir tout de suite. Il ne semble pas que l'incarnation convienne mieux au Fils de Dieu qu'au Père ou à l'Esprit Saint. Par ce mystère, en effet, les hommes sont amenés à la véritable connaissance de Dieu, selon cette parole de saint Jean. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Mais du fait de l'incarnation de la personne du Fils de Dieu, beaucoup se sont détournés de la vraie connaissance de Dieu, attribuant les propriétés de la nature humaine à la personne même du Fils. Ainsi, Arius a prétendu que les personnes étaient inégales pour cette raison qu'il est dit dans saint Jean « Le Père est plus grand que moi ». Et cette erreur, il a oublié l'autre parole, « Le Père et moi, nous sommes un ». Évidemment, ça, il a oublié ça. C'est toujours quand vous prenez une parole de l'Écriture et que vous mettez l'autre dans l'abîme sans voir, alors à ce moment-là, vous tombez dans l'hérésie. Le Père est plus grand que moi. Et cette erreur ne se serait pas produite si la personne du Père s'était incarnée. Vous voyez, elle est partisan du Père. Hein. Dans la politique divine, ça, il y a le partisan du Père. C'est faux que ce soit le Fils qui soit incarné. Il faut que ce soit le Père. Personne, en effet, n'aurait pensé attribuer au Père une infériorité par rapport à son Fils. Le Père n'aurait pas pu dire « le Fils est plus grand que moi ». Oui. et d'une mayonnaise. D'arriver à faire cette chose. Il est donc, semble-t-il, préférable que la personne du Père s'incarnât plutôt que la personne du Fils. On aurait dû demander dans la... Arius aurait dû pénétrer dans le conseil de la très sainte Trinité et puis dire, ah non, ça, c'est dangereux, que ce soit le Fils. Je vais dire un petit conseil, demander comment ça se passe. Alors, voici la réponse de saint Thomas. Damasène écrit, dans le mystère de l'incarnation ont été manifestées la sagesse et la puissance de Dieu. Sa sagesse, car à la situation la plus difficile, il a su donner la solution. Il a déjà pris cette solution-là, ce texte-là, vous vous souvenez, hein. Cité, ça le reprend ici, le situe ici. C'est pas étonnant, hein, parce qu'il va s'en servir autrement. Sa sagesse, car à la situation la plus difficile, elle a su donner la solution la meilleure. Sa puissance, car d'un vaincu, il a fait un vainqueur. Mais la puissance et la sagesse appartiennent par appropriation au Fils. Puisqu'il est dit dans l'Épître aux Corinthiens, le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Il convenait donc que la personne du Fils s'incarne. Donc, la puissance et la sagesse par appropriation. Alors, vous savez bien, vous connaissez bien ce que ça veut dire par appropriation. C'est très très clair quand on parle de l'appropriation. Alors à ce moment-là, tout devient très lumineux. Alors le point de vue de la sagesse et le point de vue de la puissance. Alors, voici l'argumentation de saint Thomas. Et je vous dis, c'est très clair, c'est d'une évidence, c'est dit dans le sept contrats. On comprend immédiatement. Alors, il convenait parfaitement à la personne du Fils de s'incarner. Et cela pour plusieurs raisons. Ça, c'est intéressant. Alors, ça, c'est tout le fruit de la contemplation de saint Thomas. Pourquoi, dans sa sagesse, Dieu a-t-il voulu que ce soit le Fils ? Et non pas le Père, et non pas l'Esprit Saint. Parce qu'ils ont décidé, ça à trois. Hein ? Alors, c'est très très joli, parce que dans le conseil de Dieu, on n'a pas raisonné comme saint Thomas. Mais saint Thomas raisonne pour essayer de pénétrer dans le conseil de Dieu. Tout d'abord, du point de vue de l'union, première raison, il convient que celle-ci se fasse entre des éléments semblables. Or, la personne du Fils, qui est le Verbe de Dieu, possède un rapport de similitude commune avec toute créature. Question de saint Thomas, est-ce que la création provient de la très sainte Trinité ou est-ce qu'elle provient de l'unité de Dieu ? Vous regardez vite ça, à propos de la création. Parce que ici, saint Thomas donne ça comme raison, n'est-ce pas ? Comme s'il y avait une petite similitude particulière avec le Verbe de Dieu. Or, la création relève des trois personnes divines, et non pas du Verbe. Et cependant, il est dit dans le prologue de saint Jean que tout a été fait par lui, par le Verbe, et qu'il vient éclairer tout homme venant en ce monde. Hein ? C'est du saint Jean. Alors saint Thomas ici renvoie à ça. Or, la personne du Fils, qui est le Verbe de Dieu, possède un rapport de similitude commune avec toute créature. Le Verbe ou la conception de l'artiste. Ça devient encore plus extraordinaire. Hein. Le Verbe ou la conception de l'artiste, en effet, est l'exemplaire idéal de son œuvre. Et le Verbe divin, qui est le concept éternel de Dieu, est aussi l'exemplaire idéal de toute créature. Dès lors, puisque par la participation à cet exemplaire idéal, les créatures sont constituées dans leur espèce propre, tout en restant soumises à la corruption, il était normal que par l'union personnelle au Verbe, et non plus seulement par simple participation, la création déchue fut rétablie dans son ordre à la perfection éternelle et immuable. C'est en effet par le moyen de la conception idéale qui lui a été... Par le moyen de la conception idéale qui lui a fait produire son œuvre, que l'artiste la restaure lorsque celle-ci vient d'échoir. Vous voyez cette analogie, hein ? Est-ce que c'est une analogie propre ? Hein ? Très très curieux et intéressant, tu vois, c'est très intéressant. Un père de l'Église aurait dit ça. On comprend très bien, et dans la somme théologique de saint Thomas, très intéressant, c'est très intéressant à bien situer. D'autre part, le Verbe de Dieu possède un rapport de similitude spéciale avec la nature humaine. Donc vous voyez, première raison, la création en général. Le Verbe, première raison c'est ça. Première raison... Le Verbe et l'idée et le modèle idéal, le modèle parfait, le modèle est toujours idéal. Donc, c'est pas la peine de mettre idéal, parce qu'il est toujours idéal, ça peut pas être autrement. Donc, à l'égard de toutes les créatures, il y a une espèce de similitude. Similitude chez saint Thomas, c'est très très difficile à préciser. Une similitude entre le Verbe et toute créature. Et donc, d'une certaine manière, la créature déchue, donc c'est pratiquement l'homme, parce qu'il s'agit de l'homme, il était normal qu'elle soit refondue, reprise dans son modèle. C'est pas l'image qui doit être refondue dans le modèle. Alors, d'autre part, le Verbe de Dieu possède un rapport de similitude spéciale avec la nature humaine, car le Verbe est le concept de l'éternelle sagesse de laquelle toute sagesse humaine dérive. C'est pourquoi le progrès de l'homme dans la sagesse, en laquelle se réalise sa perfection d'être raisonnable, se mesure à sa participation au Verbe de Dieu. Ainsi, le disciple s'instruit dans la mesure où il reçoit la parole du Maître, il ne faut jamais l'oublier, expression de son Verbe intérieur. De là, ce mot de l'ecclésiastique, la source de la sagesse, c'est le Verbe de Dieu, au plus haut des cieux. Il convenait donc, pour l'achèvement de la perfection de l'homme, que le Verbe de Dieu fût uni personnellement à la nature humaine. L'on peut encore trouver une nouvelle raison de convenance en considérant la fin de l'union hypostatique. Cette fin, c'est le salut de ceux qui ont été prédestinés à l'héritage céleste, lequel n'appartient qu'au Fils. Selon cette parole de l'Épître aux Romains, si nous sommes fils, nous sommes aussi héritiers. Il revenait donc à celui qui est le Fils naturel de Dieu de communiquer aux hommes une image de cette filiation par l'adoption divine. Ainsi que l'apôtre l'écrit au même passage, ce qu'il a distingué d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Enfin, une troisième raison, une quatrième raison, Enfin, une troisième raison de convenance se tire du péché de notre premier Père, auquel vient remédier l'incarnation. Le premier homme, en effet, a péché en désirant la science, comme il ressort des paroles mêmes du serpent, lui promettant la science du bien et du mal. Il convenait donc qu'après s'être éloigné de Dieu par un désir déréglé de science, l'homme fût ramené à Dieu par le verbe de la vraie sagesse. Vous voyez, ces raisons, elles sont très intéressantes, elles sont difficiles à bien comprendre, hein, dans un raisonnement de théologie scientifique. Donc, il faut les reprendre, chacune, pour essayer de voir tout ce que ça implique dedans. Comment devons essayer de saisir un mystère qui nous échappe tout le temps, hein. Ne l'oublions pas. Il s'agit non pas de donner des raisons au sens propre, il s'agit de saisir les convenances de ce mystère de l'incarnation tel qu'il est réalisé, tel qu'il a été réalisé. Alors, le pourquoi de la seconde personne, le pourquoi du Fils. Vous voyez que saint Thomas ne prend pas la raison de la grâce. Il aurait dû prendre la raison de la grâce. Mais je vais peut-être voir les objections avant et puis nous reviendrons sur la chose. Je crois que ce sera mieux. Parce que ça nous permettra de donner une petite synthèse de cette question. Donc nous avons vu la première objection. Hein, la première objection très grosse. Le Père est plus grand que moi. Alors, si c'était le Père, ça irait mieux. Il n'est rien dont la malice humaine ne puisse abuser. Nihil est quo humana malitia non potest abuti. Saint Thomas est agacé. C'est rare qu'il renvoie comme ça, hein, à l'objectant. Nihil est quo humana malitia humana non potest abuti. Même de la bonté de Dieu. Quando etiam ipsa dei bonitate abutitur. Ça agace saint Thomas quand on touche à la bonté de Dieu. Même de la bonté de Dieu, selon ce qui a été écrit dans l'Épître aux Romains, méprises-tu les richesses de sa bonté. Si la personne du Père s'était incarnée, l'homme eût pu encore tomber dans quelque autre erreur et s'imaginer, par exemple, que le Fils à lui seul ne pouvait restaurer la nature humaine. Saint Thomas est très riche dans les imaginations pécamineuses. On voit très bien. Il a dû se demander, mais qu'est-ce qu'il aurait dit, hein, les hommes, si c'était le Père qui s'est incarné? On aurait dit qu'il ne pouvait pas envoyer son fils. Que le fils était incapable, donc ça n'aurait été ça, ouais, et qu'il fallait nécessairement le Père. Donc... saint Thomas renvoie tout simplement à la bonté. Remarquez bien, c'est la bonté. Deuxième objection. En outre, l'incarnation semble devoir aboutir à une nouvelle création de la nature humaine. Selon cette parole de l'Épître aux Galates, dans le Christ Jésus, la circoncision n'est rien, ni non plus l'incirconcision. Il n'y a plus qu'une nouvelle créature. Le pouvoir de créer appartient par appropriation au Père. Trouverait l'appropriation. Il eût donc mieux valu que le Père se fût incarné. C'est une recréation. Si c'est de nos recréations, regardons le Père. Alors, réponse. La première création des choses vient de la puissance de Dieu. De Dieu, le Père, par le moyen de son Verbe. Cette nouvelle création doit venir, elle aussi, de la puissance de Dieu le Père, par le moyen du Verbe. Ainsi, la seconde création répond à la première, selon cette parole de la deuxième épître aux Corinthiens, c'est Dieu en personne qui, dans le Christ, réconciliait le monde. Donc, vous renvoyez tout simplement que l'œuvre de la création implique le Père et le Verbe. Et alors, par appropriation, là, vous voyez ce qui est intéressant ici, hein, parce que ça, ce sera la clé de la réponse que donne saint Thomas. Troisième objection. Enfin, l'incarnation est ordonnée à la rémission des péchés. Puisqu'il est dit dans l'épître, dans l'évangile de saint Matthieu, tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Mais la rémission des péchés est attribuée à l'Esprit Saint, d'après cette parole de l'évangile selon saint Jean. Recevez l'Esprit Saint, les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. Il appartient donc à la personne du Saint-Esprit de s'incarner plutôt qu'à la personne du Fils. C'est une œuvre ultime et dernière. Donc ce serait mieux que ce soit le Saint-Esprit. Comme ça, on aurait mieux compris que c'est l'œuvre dernière. Tandis qu'on a toujours un peu la tentation de dire qu'après l'incarnation du Fils, il y a l'incarnation de l'Esprit Saint. Alors on attend, hein, Mahomet. Hein, c'est ça, on attend la dernière. Alors, réponse de saint Thomas, le propre de l'Esprit Saint, c'est d'être le don du Père et du Fils. Or, la rémission des péchés se fait par l'Esprit Saint, en ce sens que l'Esprit Saint, nous étant donné par Dieu, nous sommes purifiés de nos fautes. Il est donc préférable qu'en vue de justifier l'homme, ce soit le Fils de Dieu qui s'incarne, puisque l'Esprit Saint nous est donné par lui. Par l'incarnation du Fils, il y a encore la possibilité du don de l'Esprit, par le Fils. Ça, ce serait très très joli à creuser pour le mystère du sacerdoce de Jésus. Le sacerdoce du Christ qui s'achève dans le don de l'Esprit. Oui. Et donc, on comprend mieux sa médiation, qui est une médiation ultime, par le don de l'Esprit Saint. Tandis qu'il n'aurait pas pu avoir ça s'il y avait eu la médiation de l'Esprit Saint. Il n'aurait pas pu avoir cet ultime don. Oui. Alors ça, c'est très joli comme raison par rapport au sacerdoce. C'est très curieux, hein, que le sacerdoce n'est pas évoqué. Alors que peut-être, hein, c'est une des raisons, il veut nous sauver comme prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Sacerdoce du Fils. Alors, il y a un lien. Et saint Thomas reprendra ça pour la pression de la médiation. Vous voyez ? La médiation est d'une certaine manière, puisque l'œuvre du Christ est une œuvre de médiation. Alors ça, c'est tout le mystère de la rédemption. Je sais bien, c'est le mystère de la rédemption, c'est pas le mystère de l'incarnation. Mais comme l'incarnation est vue dans la lumière de la rédemption, soyons logiques. Parce que saint Thomas nous a dit que c'est dans la lumière de la rédemption que nous regardons parfaitement le mystère de l'incarnation. Puisque c'est comme ça que ça s'est révélé. Donc si on veut comprendre le mystère, pourquoi c'est le Fils qui s'est incarné, il me semble que la dernière raison, c'est le mystère du sacerdoce. Oui, c'est ça que nous devrions développer. Pas d'opposition.
Non, je de distinction. Le terme oui. Technique des distinctions des oui. Personnes divines oui. À partir des relations d'opposition, comme saint Thomas l'appelle.
Oui.
Le Fils est tout entier en tant que prêtre relatif au Père
oui.
Et donateur de l'Esprit.
Oui, c'est ça.
Donc en fait,
c'est le médiateur par excellence.
Mmh.
tout à fait.
Qui, donc, dans ses actes de prêtre, il manifeste, il peut manifester d'une façon réelle et non pas par appropriation les personnes.
Oui, c'est pour ça c'est que j'ai dit. J'ai dit que la raison propre, ça doit être le point de vue du sacerdoce.
Pour un argument propre et non pas d'appropriation.
Ouais, tout à fait. Pourquoi ça te demande de... C'est très curieux. C'est pour eux, parce qu'il nous laisse à le trouver. Mais je crois qu'il y a certainement nous laisse ça. Ben je crois, prenez, n'oublions pas ce que saint Thomas lui dit lui-même, que le mystère de la rédemption, le mystère de l'incarnation, se comprend parfaitement pour nous par le mystère de la rédemption. Puisque c'est selon l'Écriture, il s'est incarné pour nous sauver. Donc, soyons logiques jusqu'au bout. C'est par la révélation, par la rédemption, que je comprends parfaitement l'incarnation. Je crois que c'est le bon raisonnement. Par le fait même, tout le mystère de la rédemption, c'est le mystère du sacerdoce de Jésus. C'est donc par le mystère du sacerdoce que je vais comprendre pourquoi le Fils est incarné. C'est la raison que vous donnez. Ça, c'est sûr. Alors, que saint Thomas ici, alors, vous voyez, alors est-ce que c'est une raison? Est-ce que c'est une raison de théologie mystique? Ou est-ce que c'est une raison de théologie scientifique?
Je vous enverrai l'esprit. C'est une raison mystique, vous voyez.
Ce que je veux dire, le souci de saint Thomas, c'est, poussons jusqu'au bout la théologie scientifique de saint Thomas. Il essaie de comprendre l'incarnation en elle-même, tout en donnant les convenances, en montrant le lien. Mais il essaie de comprendre. On peut dire que cette première partie sur le mystère de l'incarnation, c'est d'essayer de comprendre l'incarnation en elle-même, sans regarder le point de vue de la rédemption. Il regarde l'union d'une chose, il regarde ici la personne. Alors, il ne veut pas faire appel, il me semble, par un souci de, vous voyez, de technique scientifique, essayer de regarder, si je regarde uniquement l'incarnation en elle-même, sans regarder le mystère de la rédemption, je vais essayer de comprendre la raison. Y a-t-il une raison? Alors, c'est ça qui me semble très intéressant. C'est qu'au niveau purement de l'incarnation, il ne peut parler que de raisons d'appropriation. Donc, ce ne sont pas des vraies raisons. Tandis que si je me place, alors c'est ça qu'on a réuni, tandis que si je me place dans une perspective plus complète, et donc peut-être de théologie mystique, en regardant la finalité même de l'incarnation, il est venu pour nous sauver, alors à ce moment-là, le mystère du sacerdoce donne une très grande clarté sur l'incarnation du Fils. Et une clarté qui est propre, qui n'est plus simplement une appropriation. Je crois qu'on peut dire ça, vous voyez? Oui.
Dans le corps de l'article, pourtant, il résonne sur la fin de l'union.
Ah oui, mais la fin de l'union, pas la rédemption.
Oui, mais qui est de vous donner l'héritage? Alors, est-ce que ce n'est pas la rédemption?
Non.
Il résonne aussi sur la réparation du premier péché.
Oui, je sais très bien. Il y a cette raison-là, mais ce n'est pas ça qui... Vous voyez,
c'est deux des trois raisons, quand même.
Oui, mais ce n'est pas la raison de... Vous voyez, ne regarde pas la rédemption en disant la rédemption se fait par le sacerdoce de Dieu, par le mystère de la croix. Mais le mode particulier, là il regarde uniquement la rédemption, le mystère de l'incarnation est venu pour ça, c'est vrai. Mais c'est plus, il me semble qu'il y a un souci de saint Thomas ici, de regarder l'incarnation en elle-même, l'article 2 comme il dit, et si l'article 3 vient dans la perspective de l'article 2, on regarde l'union en elle-même. Et l'union en elle-même, qui est l'union de la personne divine qui assume la nature humaine, est-ce que dans cette union, en regardant uniquement l'union, et les conséquences de l'union, mais en regardant l'union en elle-même, est-ce qu'au fond, nous pouvons trouver une raison, que ce soit la seconde personne, et non pas la première, ni la troisième? Oui. Il me semble, alors on va reprendre ça, attentivement, parce que ça me semble important, Et je crois que c'est important de faire ce point de vue, vous voyez, tout de suite, de voir que par le problème, par le mystère de la rédemption, par le mystère du sacerdoce de Jésus, une raison éclate. Ça, c'est sûr. La médiation sacerdotale est plus immédiatement rattachée au Verbe, au Fils. Vous voyez ? Ça, c'est sûr. Oui, vous ne dites pas ça. Ah, je crois que le mystère même de la rédemption, qui est le mystère du sacerdoce, ben, il y a un lien particulier qui est plus immédiat pour nous. Pour nous, c'est toujours pour nous, c'est évident. Par rapport au mystère du Verbe.
C'est pas de l'appropriation.
Ah, c'est plus. C'est plus.
Quoi ? C'est lié à la mission ?
Oui, c'est lié à la mission. C'est lié à la mission et c'est lié à la mission du Verbe en tant qu'il est envoyé du Père, et c'est tout le mystère de son sacerdoce, d'être médiateur. Alors, c'est sûr que chaque personne divine pouvait le faire, c'est évident. Chaque personne divine. Mais la raison de l'Épître aux Hébreux, hein, le sacerdoce du Fils, il y a une raison au sacerdoce du Fils. Moi, je crois qu'il y a une raison qui est une raison plus qu'une appropriation, qui est une raison propre. Sacerdoce du Fils. Vous voyez ? Sacerdoce du Père. Le Père, en tant que Père, n'est pas médiateur. Oui, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Mais c'est très difficile, c'est pas commode, on va pas préciser. Alors, on est devant quelque chose de très mystérieux qui nous dépasse. Hein. Alors, voyons bien la première raison. Il convenait parfaitement à la personne du Fils de s'incarner, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, du point de vue de l'union, il convient que celle-ci se fasse entre deux éléments semblables. Alors, c'est... sont similia. La similitude est quand même très très éloignée. Hein. Et donc le similia doit se prendre du reste. N'oublions pas que c'était une des objections à propos de l'union. Hein. C'est qu'on n'unit pas des termes qui sont si dissemblables. Et alors saint Thomas ici reprend la similia et non pas le dissimilia. Or, la personne du Fils, qui est le Verbe de Dieu, possède un rapport de similitude commun avec toute la créature. Uno modo communis conveniencia. Alors, remarquez que d'abord, il dit simplement, vers toute la créature, une conveniencia communis. Il faudrait donc corriger même le point de vue de la traduction, parce que ce n'est pas tout à fait la même part. Dire un rapport de similitude, tout simplement une convenance commune. Conveniencia est plus faible que similitude. C'est une convenance, une harmonie vers toute la créature. Alors, comprenons bien ce communis conveniencia a totum creaturam. Que représente exactement cette convenance commune du Verbe vers toute la créature? Il y a quelque chose. Alors, saint Thomas explique « Quia verbum artificis, ides conceptus eius, et similitudo exemplaris, et orum que sunt ab artifice fiunt. » Donc, c'est la similitude. Saint Thomas prend cet argument, cette analogie, qui est une analogie métaphorique, pas une analogie propre. Par rapport, oui, c'est pour ça que c'est métaphorique. Ah, il y a un fondement réel. Ah, dans toute analogie, même métaphorique, il y a un fondement réel. Hein? Mais c'est l'élément sensible, vous voyez. C'est que l'élément sensible est assumé. Dès que je parle avec un élément sensible, je suis en face d'une métaphore. L'analogie propre n'assimile que des notions qui sont absolument pures. Tandis qu'au contraire, se servir du verbum, du verbe de l'artiste, donc de l'idéal, qu'aux exemplaires de l'œuvre, et de la mettre en rapport avec le verbe, quel genre d'analogie ?
Oui ? Est-ce qu'on peut parler d'analogie de proportion ? On retrouve une proportion analogue entre le verbe de l'artiste et son œuvre, oui, ou au niveau de la forme accidentelle ?
Oui, je suis. Est-ce que c'est une analogie propre ?
Propre, mais de proportion.
Proportion. Venez, si il implique le fini, implique l'élément du sensible, puisque c'est le lien avec l'œuvre, l'artiste. C'est toute la question, c'est toute une question qui reste très très vaste, c'est toute la question de savoir si le point de vue de la philosophie de l'art, comment est-elle transposable en théologie. Oui, la création, je suis tout à fait d'accord, la création, mais la création, Saint-Thomas reprendra le point de vue de la création, qu'est-ce qui arrivera au terme à dépasser complètement ce point de vue-là ? Puisqu'au fond, la causalité exemplaire, puisqu'ici c'est la causalité exemplaire est-elle attribuable analogiquement à Dieu ? Il prendra toujours le point de vue de la causalité efficiente, laissée participer. Et la ratio propre de la création, c'est laisser participer. Tandis que la causalité exemplaire, elle, est intentionnelle. Vous voyez, elle a un mode intentionnel. Alors, dans quelle mesure est-elle attribuable ? C'est la question. Alors, on voit très bien, on peut très bien l'attribuer, je suis tout à fait d'accord, c'est pas l'argument de saint Thomas, mais c'est pour essayer de savoir à quel degré de connaissance scientifique avons-nous quand il fait ça ? Sommes-nous devant un argument propre ou un argument proprement métaphorique ? Je comprends très bien qu'on emploie ces arguments-là. C'est pas du tout à négliger, c'est même très important. Mais c'est important de voir la portée de cet argument. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? De faire cette analogie que fait saint Thomas ici, entre le point de vue, n'est-ce pas, quia verbum artificis ides conceptus eius et similitudo exemplaris et orumque ab artifici fiunt, unde verbum dei, qui eternum conceptum, le verbe de Dieu, qui est le concept éternel et similitude exemplaris totius creaturae. L'exemplaire de Dieu, c'est l'idéa au sens propre. L'idéa ne fait qu'un avec le verbe. L'idéa ne fait qu'un avec l'essence de Dieu, qui ne fait qu'un avec le verbe. Vous voyez ? Alors, ici, il prend tout de suite « unde verbum dei quest eternus, eternus conceptum eius ». Mais le verbe de Dieu, en tant qu'il est l'éternel concept de Dieu, il est le concept de la contemplation même de Dieu et non pas de l'œuvre. C'est sûr. Le mystère du verbe de Dieu, l'analogie que prend saint Thomas dans son traité de la très sainte Trinité, montre bien que le verbe est l'expression de la contemplation même du Père par rapport à lui-même, par rapport à sa propre nature. Oui, et ce n'est pas du tout par rapport, causalité exemplaire par rapport à autre chose. Oui, pour pouvoir dire que c'est une causalité exemplaire par rapport à autre chose, c'est l'idéa, les idées divines qu'on met et qui sont, elles, cause exemplaire. Vous voyez, le télescopage, c'est extraordinaire comme chose. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, mais j'en suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord qu'il est dans des causes, mais ce que je veux, c'est comprendre justement ce qu'il dit.
Mais oui, mais il le dit par appropriation, donc en fait.
Mais oui, mais c'est ça qu'il faut souligner. C'est... pour comprendre ce que c'est que par appropriation. Parce qu'autrement, on dit tout de suite par appropriation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Quelle différence y a-t-il entre un raisonnement analogique pur et l'intervention du père par appropriation, où intervient le point de vue de l'analogie métaphorique. C'est ça que je veux faire comprendre. C'est que l'analogie métaphorique intervient pour l'appropriation. C'est pour ça que c'est l'ultime moment au point de vue théologie scientifique et qu'on est tout proche de la théologie mystique. La théologie mystique peut s'employer des analogies métaphoriques. C'est le propre de la théologie mystique, c'est d'employer des analogies métaphoriques. Tandis que la théologie scientifique, elle, en tant que théologie scientifique, oui, ne peut pas, au sens rigoureux, employer des analogies métaphoriques. Saint Thomas n'en emploie aucune dans tout son traité du De Te Uno. Ça, c'est net. Ici, vous voyez, on aboutit, et c'est pour ça que je crois que c'est le dernier article. Vous voyez, c'est très très curieux, c'est très significatif. C'est que saint Thomas, de temps en temps, sait très bien que la théologie scientifique ne dit pas tout. Et alors, ça arrive le dernier article pour montrer que, ah, ça demande d'être repris par autre chose. C'est très souvent comme ça. On est en présence de quelque chose qui est ultime au point de vue théologie scientifique. Au point de vue théologie scientifique, on balbutie quand il s'agit de savoir si c'est pourquoi c'est le Verbe plutôt que le Père, plutôt que l'Esprit Saint. En théologie scientifique, hein, parce qu'au fond, la raison profonde faudrait connaître que Dieu est dit que ce soit le Fils. Or, la seule raison qui nous est envoyée, qui nous est comprise, c'est la mission. C'est la seule. Et ceci touche la théologie mystique. C'est dans la théologie mystique qu'on va développer tout le point de vue de la mission. Beaucoup plus qu'en théologie scientifique. Et c'est ça qui me semble intéressant. C'est que nous touchons là l'ultime moment de la théologie scientifique. Alors, l'appropriation, c'est quelque chose qui, au point de vue de théologie scientifique, est vraiment ultime. Hein, on est sur les bords du... Ça glisse. On n'a plus grand-chose comme manière de saisir, hein. Le commodo non sit est très très faible parce que je crois que ça repose et que ça implique toujours une analogie métaphorique. Alors c'est la question qu'il faudrait se poser. Est-ce que l'appropriation n'implique-t-elle pas toujours une analogie métaphorique? Si je regarde ici l'argumentation, ça me semble être cela. Et il me semble bien, quand vous regardez attentivement tout le mystère de l'appropriation dans la Très Sainte Trinité, que c'est toujours, en dernier lieu, une analogie métaphorique qui est en question et qui rend raison de ça. Alors ça, c'est très beau, parce que ça ferait comprendre comment on est juste entre le passage de la théologie scientifique à la théologie mystique. Vous voyez ? Et ça montrerait comment le théologien de théologie scientifique montre qu'il pose une ultime passerelle vers la théologie mystique et que lui ne peut pas dire plus que ça.